Christ revient, il dit sa vérité. Lettre 4. Moi, le Christ, je viens, dans mon amour pour vous, vous faire un résumé de tout ce que j'ai perçu pendant mon illumination dans le désert, et que j'ai tenté d'enseigner aux Juifs en Palestine, il y a 2000 ans. Certains détails de ma vie terrestre sont relatés dans les lettres 1, 2 et 3. Si vous les avez lus, vous saurez qu'il est d'une importance capitale pour votre bien-être de comprendre que mes disciples ayant finalement créé une religion, qu'ils appelèrent le christianisme, fondée sur ma vie et mes enseignements, je ne dis pas ces lettres pour enseigner et confirmer ce que mes disciples ont dit. Le christianisme est une religion formelle qui, pour des raisons de pure convenance, a repris de nombreuses croyances contraires à la vérité spirituelle de notre source de l'être. Qu'est-ce que le fait de verser du sang a à voir avec l'esprit universel? Comme il faudrait que vous le réalisiez maintenant, mon enseignement, depuis les premiers jours de ma mission sur Terre, en Palestine, reflète toujours la plus haute vérité spirituelle de l'existence, qui n'a rien à voir avec les conceptions et les rationalisations humaines dont parlent les esprits humains. C'est pourquoi je répète avec insistance que si mon personnage sur Terre, il y a 2000 ans, était celui de Jésus, la raison d'être de ma présence, la présence Christ qui se trouve dans ces lettres, est d'atteindre les âmes sensibles et inspirées afin de leur apprendre à faire appel à l'aide divine lorsque viendront les temps d'horreur dans lesquels sera finalement plongé le monde. C'est la raison pour laquelle mon puissant désir de sauver ceux qui peuvent me recevoir se matérialise sous forme de vrille de l'existence contenue dans ces lettres. Prenez-en acte, ne la rejetez pas. J'aimerais que vous sachiez, et preniez bonne note, que je suis venu chez les Juifs en Palestine 70 ans, avant que Jérusalem ne soit complètement rasée. Je suis venu chez les Juifs pour les avertir que leur code de conduite ne leur serait d'aucune utilité, lorsque les tribulations futures s'abattraient sur eux, les chassant dans un monde hostile. Dans l'un des évangiles, il est rapporté que je pleurais de désespoir, me désolant de n'avoir pu rassembler le peuple sous mon aile, comme le font les poules avec leurs poussins, pour les protéger quand viendrait le temps de leur destruction, mais les gens ne m'écoutèrent pas. Bien au contraire, leurs chefs religieux me mirent à mort. Mais après que les Juifs aient été dispersés, lorsque leur temple leur a été enlevé, ont-ils compris la leçon de leurs expériences? Se sont-ils demandé pourquoi une telle catastrophe s'était abattue sur eux? Non, ils ont continué à suivre leurs vieilles traditions, et à croire en leur supériorité, bien que, de façon répétée, des événements historiques leur prouvent qu'ils pouvaient subir des désastres comme d'autres peuples. En ce moment même, ils choisissent encore d'ignorer les vérités de l'existence que je leur ai enseignées en Palestine, et ils font rejaillir sur eux exactement les mêmes circonstances qui ont suivi ma vie terrestre en Palestine. Christ revient-il dit sa vérité de l'être 4 où qu'ils habitent, leurs valeurs matérialistes, leurs traditions d'œil pour œil, leur attirent la misère humaine qu'ils ont causé à d'autres tout au long des siècles, par leur arrogance et leur cupidité. Tout ce qu'ils endurent, ils l'ont eux-mêmes fait tomber sur eux. Cela vaut aussi pour ceux qui, par intérêt, s'allient à des Juifs à cause de leur puissance financière dans les sphères financières et les marchés mondiaux. Qui est-ce qui maintient la grande majorité de la population mondiale dans la faim, alors qu'il y aurait bien assez de réserves de nourriture pour nourrir les gens? Si le profit pour le profit était abandonné, s'ils en avaient la volonté, les dirigeants financiers pourraient planifier et mettre en œuvre la distribution des surplus de biens aux nécessiteux. Ils s'apercevraient alors que l'univers entier leur répondrait avec des bénédictions, que l'économie mondiale fleurirait, et que la paix s'établirait au niveau mondial. Avant que cela puisse se produire, ce qui a déjà été créé dans la conscience et par des actes agressifs et avilissants dans le monde entier doit d'abord rejaillir, matérialiser, sur l'expérience humaine, non comme une rétribution, mais comme l'œuvre naturelle des lois de l'existence. Soyez certains que les pays qui résistent à la malveillance des autres ne font, de résister aux conséquences de leurs propres semences de conscience et d'actes des années passées. Par conséquent, les tactiques des requins, les attaques impitoyables des puissants contre les faibles, quelque récalcitrants que puissent paraître les faibles, ne peuvent qu'apporter des temps encore plus durs aux oppresseurs. Là où ils recevaient un coup d'épingle, ils amassent maintenant dans leur conscience la future désolation qu'ils imposent actuellement à d'autres. Peut-être devraient-ils considérer le coup d'épingle des faibles comme une sonnerie de clairon qui les alerte de leur chute dans la décadence morale. Du fait que de telles personnes violent constamment les lois de l'existence, et attirent une destruction d'une ampleur inégalée sur les villes et la terre entière, mon intention, dans cette lettre, est non seulement de reprendre tout ce que j'ai enseigné et vécu en Palestine, mais d'expliquer clairement les causes sous-jacentes de la crise mondiale, qui se profile à l'horizon, cause que je n'ai pas traitée la dernière fois que je me suis adressé à l'humanité. Ces lettres ont été écrites avant l'époque la plus cruciale de votre histoire, et quand les épreuves s'abattront vraiment sur vous, vous vous demanderez pourquoi je ne vous ai pas averti plus tôt. Mais je dois vous dire que j'essaie d'alerter le monde depuis 25 ans, par l'intermédiaire d'esprits réceptifs, mais ni les médias, ni les maisons d'édition, ni la télévision, n'étaient prêts à m'écouter et à me donner l'occasion de vous parler par l'intermédiaire de mes agents. Les politiciens pouvaient vous atteindre, mais moi, le Christ, je ne le pouvais pas, à cause de la dureté de votre cœur et de votre refus d'admettre que moi, le Christ vivant, je pouvais revenir à cette époque par l'intermédiaire d'esprits déprogrammés et dévoués, pour avertir les nations de ce qu'elles se créaient pour elles-mêmes dans l'avenir. Les églises, qui prétendent croire en mon existence, se montrent aussi soucieuses de leur tradition religieuse de conception humaine que les matérialistes. Maintenant que sonne la dernière heure, que la peur gagne les masses et qu'elles sont prêtes à tenir compte de mes paroles, les portes doivent sûrement s'ouvrir, faute de quoi mes efforts en faveur de l'humanité auront à nouveau été vains. Christ revient-il dit sa vérité 3 lettres 4, je viens vous dire qu'effectivement, il y aura un tri des chèvres et des moutons, comme le disent les évangiles dans la Bible. Les moutons se réfèrent à ces âmes qui peuvent paisiblement recevoir la vérité spirituelle la plus haute, qui ait jamais été délivrée sur terre. Les chèvres se réfèrent à ceux qui n'ont pas la capacité d'écouter, qui ou quoi que ce soit parce que leur esprit est trop rebelle et égocentrique. Pourquoi seront-ils maintenant séparés? Ils seront séparés parce que ceux qui sont capables de recevoir la vérité contenue dans ces pages, et de vivre selon les lois de l'existence, constateront que bien que la période à venir de l'histoire mondiale soit en effet amère, ils continueront à vivre dans une paix, une protection, un assouvissement de leurs besoins, et une élévation d'esprit relatif. Les chèvres, malheureusement, devront supporter toute la force terrifiante de leur conscience rebellinée. Ceci n'est pas une punition de quelqu'un de très haut, mais une conséquence naturelle de la loi de l'existence, ce qui réside dans votre esprit, et votre cœur finit par s'extérioriser dans votre corps, dans votre vie et dans votre environnement. Quand vous résistez et vous rebellez, la vie vous oppose une résistance dans l'accomplissement de vos désirs. Je me suis depuis longtemps élevé jusqu'aux fréquences les plus hautes de vibration de la conscience, dans les royaumes célestes, et je suis la conscience divine elle-même individualisée. Ma conscience peut englober le monde pour atteindre quiconque s'adresse à moi. C'est le cas de tous les grands maîtres qui ont vécu sur terre, qui ont été illuminés et ont perçu la réalité de la source de tout être, et ont enseigné les gens depuis leur niveau élevé d'illumination. Ils ont été élevés dans la puissance spirituelle pour pénétrer le voile dense de la conscience humaine, et percevoir ce qui est vraiment, au-delà du monde de la matière. Ils ont vu, aussi clairement que le permettait leur conditionnement mental antérieur, l'unité fondamentale de la création, à l'intérieur du royaume de la créativité elle-même. Tous, après leur transition dans la dimension d'existence suivante, ont échappé au cycle des réincarnations, et ont accédé au royaume encore plus élevé de pure conscience spirituelle individuelle, aux portes même de la conscience universelle. Ils sont devenus conscience divine individualisée, possédant la puissance et la pénétration de la conscience divine. Eux aussi font partie de la conscience christique, comme je l'ai dit dans une précédente lettre. Ils combinent les sommets de l'amour intelligent avec ceux de l'intelligence aimante, la puissance de la volonté avec la puissance du dessein. Ils sont également masculins et féminins dans leur conduite. Ils sont la manifestation parfaite de la force et de l'élévation. Ils sont l'exemple parfait de ce que tous les hommes, les femmes, devraient s'efforcer d'atteindre. Pour parvenir à une telle perfection d'être, l'esprit humain doit écarter toute division et toute rivalité. Quel que soit votre prophète attitré, vous pouvez être certain qu'il est la vie, elle-même est puissante par son appartenance à la fraternité de tous les grands maîtres. Chaque prophète, chaque maître a perçu la même réalité, et a vécu d'une façon suffisamment pure pour s'assurer qu'il réalisera finalement le but de chaque homme, la perfection dans le paradis. Christ revient-il dit sa vérité 4 lettres 4, il est d'importance vitale que vous le compreniez, et que vous vous rendiez compte que les différences que vous faites à propos de vos maîtres sont complètement erronées, parce que nous sommes tous unis dans notre source commune de l'être. Nous sommes une fraternité d'êtres de la vie, manifestant chacun, par notre individualité, la vérité la plus haute de notre source de l'être. Nous sommes égaux en pureté, en puissance, beauté, grandeur d'esprit et amour. En conséquence, vous, les moutons de toute conviction religieuse, qui avez suffisamment développé la compréhension spirituelle de votre unité fondamentale dans votre source de l'être, vous devriez rapidement chercher à vous unir dans une même fraternité dans vos villes et pays, et tendre à vous relier à vos frères spirituels du monde entier, sans tenir compte de tout ce qui se passe dans le monde extérieur. Vous devriez transcender toutes vos différences religieuses, chrétiens, soufis, musulmans, juifs, israéliens, palestiniens, hindous, bouddhistes, etc. et vous considérer, comme étant tous pareillement dans le havre de sécurité de l'amour universel, et de la protection intelligente universelle, en paix avec vous-même, les uns avec les autres et avec ceux qui sont décidés à lutter jusqu'à la fin. Ce n'est qu'ainsi que votre planète survivra aux tourments qui vous attendent. Je suis aussi retourné vers ceux qui ne sont ni musulmans, ni chrétiens, bouddhistes ou hindous. Je suis venu à ceux qui désirent, et même depuis longtemps, connaître la réalité qui réside derrière toute existence. Je vous dis que je suis venu, en la personne de Jésus, chez les Juifs en Palestine. Je pourrais aussi bien vous dire que je suis venu chez les Arabes en la personne de Muhammad, puisque Muhammad et moi sommes un seul esprit. Nous diviser en personnages portant des noms différents, Jésus et Muhammad, ou Muhammad et Jésus, et comme donner deux noms différents à de vrais jumeaux sous prétexte que l'un enseigne la littérature, tandis que l'autre enseigne les mathématiques. Nous sommes tous deux de conscience christique, tous deux des individualisations de la conscience divine. Quand nous étions sur terre, nous avons tous deux parlé d'un Dieu d'amour et de compassion, selon la façon dont notre humanité nous permettait de percevoir notre connaissance inspirée de Dieu. Il faut que vous gardiez à l'esprit que nous étions tous deux des êtres humains profondément conditionnés par nos croyances traditionnelles héritées au cours des siècles. Par conséquent, notre inspiration nous venait à travers des esprits déjà possédés par d'autres idées. Comme je vous l'ai dit précédemment, l'inspiration, à moins qu'elle ne passe par un esprit pur et déprogrammé, prendra toujours la tonalité de conviction acquise lors du conditionnement de la petite enfance. L'esprit rationnel qui reprend, quand cesse l'influx de l'inspiration, commence à expliquer la nouvelle connaissance et la nouvelle compréhension en termes de ce que le mental humain a déjà accepté. Christ revient-il dit sa vérité 5 lettres 4 mai, comme je vous l'ai déjà dit, j'étais un rebelle presque depuis le début de ma vie, et je ne pouvais pas accepter les croyances judaïques. J'étais un vase pur, ardent, réceptif, à l'esprit ouvert, dans lequel la vérité de l'existence pouvait se déverser dans le désert, me permettant de voir clairement la conscience universelle. Maintenant que nos perceptions sont de l'ordre le plus élevé, nous procédons d'un seul esprit, d'une seule vie et d'un seul amour, qui s'étend également aux musulmans et aux juifs, aux chrétiens, aux bouddhistes et à tous, athées ou agnostiques. Notre seule raison d'en appeler à eux est de leur apporter l'inspiration et la compréhension qui changeront leur cœur, et leur permettront de reconnaître la fraternité essentielle qui les relie en esprit, qui les encourageront à penser autrement, à entretenir des relations pacifiques, avec un cœur miséricordieux, puis à vivre ensuite leur vie différemment, en puisant la lumière dans leur source de l'être. Nous aimerions tous deux vous parler de la conscience universelle, à vous qui vivez dans cet âge scientifique d'aujourd'hui, parce que vous avez beaucoup avancé dans la compréhension de la science, et pouvez maintenant recevoir ce que nous avons tous deux à dire. Ensemble, nous disons d'une seule voix, tenez en compte, écoutez, nous, et vous sur Terre, sommes tous un à la racine même de notre être. Toute destruction que vous infligez à d'autres, vous vous l'infligez aussi à vous-même. Je, nous, dois préciser que nous venons à toutes les personnes de bon sens, bienveillantes et de bonne volonté, sans tenir compte de leur race actuelle, et de leurs croyances religieuses. Nous vous embrassons, vous aimons, vous enveloppons tous dans le manteau de protection et de sécurité de notre conscience. Nous sommes conscients de vos problèmes actuels sur Terre. Nous sommes conscients du conflit séculaire entre le judaïsme et l'islam. Mais ce différend n'a aucun rapport avec nous. Vos querelles ne nous émeuvent pas. Pourquoi mettre en danger votre propre bien, votre félicité future en vous battant pour des idées qui n'ont aucun sens et donc aucune valeur? En réalité, vous adhérez à la religion que vous avez choisie parce que, du fond du cœur, vous cherchez tout la source de votre être, bien que vous appeliez votre source de l'être par des noms différents. Nous sommes tous deux conscients des efforts individuels des juifs pour vivre une bonne vie, des islamistes pour vraiment révérer et vénérer Allah tout au long de la journée, attribuant tout ce qu'ils font et réussissent à sa puissance qui œuvre à travers eux, et des chrétiens baignant dans leur croyance de salut par le sang de Jésus. Tous, ils s'efforcent d'atteindre le bien, mais ils n'y arriveront jamais tant qu'ils resteront divisés par leur croyance. Une fois que le maelstrom d'agression mutuelle de l'actuelle conscience mondiale sera complètement épuisé, le jour viendra sûrement où les musulmans, les juifs, les chrétiens, les bouddhistes et les hindous se réuniront, rejetant leurs différences de croyances religieuses, et se mélangeront en un seul peuple, pour rendre grâce à la conscience divine de laquelle ils tirent leur être, et de laquelle viendront en nombre illimité toutes les bénédictions futures, annonciatrices de vie belle, inspirées et respectueuses d'autrui. Christ revient-il dit sa vérité 6 lettre 4 ensemble, vous reconstruirez sur de vieilles fondations et direz, ne laissons plus jamais une telle chose se produire à nouveau entre les peuples car maintenant, nous savons qu'à la racine de notre existence, nous sommes vraiment un. Quand je vous fais souffrir, la vie divine en moi diminue aussi, et ma propre souffrance suivra. Nous, et la fraternité en conscience christique, sommes aussi entièrement conscients des bouddhistes et des hindous, des disciples du Tao, des adeptes spirituels des Philippines, et de toute autre secte et discipline religieuse de tous les pays, dont le but est d'atteindre et d'accéder, même momentanément, à l'équilibre de la source universelle de l'être. Nous sommes conscients de vous tous. Nous vous englobons tous dans notre amour, notre compassion et notre sollicitude universelle. Vous êtes tout important à nos yeux, nonobstant vos croyances, car vous êtes tout un à la base de votre être, vos âmes s'unifient dans la conscience divine. Tous, tant que vous êtes, au niveau de l'âme, vous êtes unifiés un dans votre source de l'être. Si vous attrapez une goutte de pluie dans la paume de la main, pouvez-vous dire que parce que la gouttelette de pluie a atterri dans votre main et qu'elle s'est séparée de la pluie qui tombe à terre, elle est différente dans son être, dans sa composition chimique et dans la qualité de sa pureté ou de sa force du reste de la pluie tombant actuellement autour de vous? Vous pouvez même teinter votre gouttelette avec de la teinture verte et la rendre verte, mais pouvez-vous dire que la gouttelette verte sera entièrement différente du reste de la pluie tombant à ce moment-là? Vous qui êtes de bon sens, de bonne volonté et de bon cœur, sincère et vrai, vous pourrez répondre, non, la goutte n'est pas différente. C'est exactement la même en qualité, étant pareil au reste de la pluie, la seule différence est que de la teinture verte, rouge ou bleu y a été ajoutée. Donc, elle est devenue quelque chose de plus que la pluie tombant autour de nous, mais la gouttelette de pluie dans la paume de ma main, est essentiellement la même que la pluie. Chacun de vous, qui que vous soyez, quelle que soit votre couleur de peau, le genre de chevelure qui orne votre tête et la protège du soleil, la forme de votre tête ou de votre corps, la langue que vous parlez, les pensées qui vous traversent l'esprit, le vocabulaire que vous utilisez, les actions et les actes que vous exécutez suite à vos croyances et vos pensées, quelles que soient vos différences physiques et de conscience humaine. Vous êtes tous exactement pareils les uns aux autres, de la même qualité, engendrés par la même source de l'être, vous avez le même potentiel d'infini, les mêmes capacités spirituelles dans l'infini, en tout point. La seule différence entre chacun de vous, arabe musulman, juif russe, chrétien américain, bouddhiste tibétain, hindou indien, ce sont les additifs qui ont été ajoutés en chacun de vous, résultant de votre génétique, elle-même issue de votre lignée et de votre race, votre environnement, votre éducation familiale, des ressources familiales, faibles ou considérables, de l'éducation et des circonstances de la vie. Mais, ces additifs sont tous superficiels. Ils masquent votre réalité que vous appelez votre âme, tout comme la teinture masque la vérité concernant la goutte d'eau dans la paume de votre main. Votre âme est directement issue de la conscience divine et reste elle-même, primitive et pure, unie à toutes les. Christ revient-il dit sa vérité 7 lettres 4 autres âmes dans la conscience divine, malgré tous les additifs qui l'ont recouverte et pervertie depuis la naissance. Vous devez aussi vous rendre compte que chacun est né avec des aptitudes humaines diverses, afin de pouvoir se servir des additifs reçus à la naissance. Les aptitudes humaines que chaque âme utilisera dépendent du progrès spirituel qu'elle a accompli dans des vies précédentes. Certaines personnes arrivent à se sortir de profonds abîmes d'adversité, de dépression et de désespoir, et atteignent de hautes positions de confiance et de respect, exerçant beaucoup d'influence sur les autres, et d'autres tombent de hauteurs vertigineuses de prospérité, de richesse, d'opportunités et de talent, dans des abîmes de désespoir et de dépression, dans la prise de drogue, le meurtre, le viol et autres. Néanmoins, malgré tout ce que vous avez fait ou n'avez pas fait, de vos opportunités ou de leur absence, vous restez tous fondamentalement et essentiellement du même état d'être et du même potentiel. Vous êtes tous capables de vous élever, petit à petit, du niveau spirituel de conscience que vous occupez actuellement, quel qu'il soit, jusqu'au sommet de conscience divine dans les royaumes célestes. Étant donné que vous acceptez ces lettres comme étant la vérité de l'existence, et que vous cherchez quotidiennement à vivre les recommandations qui amèneront chacun de vous dans l'harmonie et au contact avec ce qui vous aide à l'être, vous progresserez et réaliserez sûrement les buts spirituels les plus élevés que vous vous êtes fixés en ce moment présent. Vous pouvez tous vous élever au niveau où vous accepterez entièrement la vérité, où vous travaillerez à purifier votre conscience personnelle, afin d'absorber la conscience divine, et vous deviendrez des individus remplis de la puissance de la conscience divine, et la rayonnerez dans votre environnement immédiat, et finalement dans le monde entier. Vous êtes tout important dans votre environnement immédiat. Le parent qui estime que tout ce qu'il fait pour la famille n'est pas apprécié, qu'il n'a aucun impact sur la vie familiale, qu'il n'a jamais entendu, respecté, aimé, qui estime qu'à l'extérieur du foyer, ou à son lieu de travail il n'a aucune importance, et qu'il ne manquera à personne, manque de discernement. De telles personnes, mâles ou femelles, père ou mère, amis, employés ou employeurs, ont eu un impact sur leur environnement. S'ils en étaient enlevés, cela créerait un trou dans le tissu de l'environnement, il y aurait une perte et il faudrait du temps pour combler ce vide avec l'arrivée de quelqu'un d'autre et avec de nouvelles activités pour remplacer celles qui auraient été abandonnées. Le plus grand pouvoir, la plus grande voix, le bienfaiteur, comme le plus humble manœuvre, qui balaie le sol ou les allées de jardin, laisse également un vide. Chacun a une place particulière dans le monde. Chacun apporte son talent, son caractère, sa façon de faire les choses, son impact sur ceux à qui il parle, sur l'endroit où il vit ou travaille. Chacun est essentiel dans son cadre de vie. Personne ne peut priver autrui de son importance, sauf celui qui nie sa propre valeur. Christ revient-il dit sa vérité 8 lettres 4 Même les personnes handicapées de naissance, ont leur place unique et importante dans leur famille et dans l'environnement. Parfois, elles occupent une position plus importante que si elles étaient nées entières et parfaites. Leurs actes forcent l'étonnement et le respect. Leur impact sur l'environnement dépend entièrement de leur volonté d'être, leur volonté d'agir, leur volonté d'exprimer de la bienveillance, leur volonté de profiter le plus possible des opportunités qui se présentent, leur volonté d'être bonnes envers les gens en faisant en sorte qu'ils se sentent mieux qu'avant que le contact n'ait eu lieu. Chacune de ces caractéristiques résulte de la volonté qui est exercée à tout moment. Certains naissent avec une volonté puissante, d'autres avec moins, mais dès le moment où une personne prend conscience du fait que toute la force de volonté est puisée dans la conscience universelle, et qu'elle peut augmenter la force de sa volonté en demandant à sa source de l'être une force de volonté accrue, elle commence à se rendre compte que la force de volonté, tout compte fait, n'est pas limitée. Elle peut l'attirer, selon l'ampleur et la force de sa foi, de la conscience universelle elle-même. Tout individu, de tout genre, race, nation, religion, niveau de ressources et de revenus, du mendiant au roi, est également important dans le moment présent, au moment de la fin. Les vraies différences résident uniquement en ce que chacun donne de lui-même à tout instant et tout au long de la journée. On peut se souvenir d'un roi, ou d'un premier ministre pour sa bonté, pour le bien qu'il a fait pour son pays ou pour la misère qu'il a imposée au peuple. De même, un homme né dans une famille pauvre, qui n'a peut-être pas développé ses capacités à un haut niveau, mais qui a tout donné de lui-même dans son service à son entourage, sera finalement autant révéré par sa famille et ses amis et, dans la vie suivante, il récoltera ce qu'il aura semé, tout comme le roi ou le premier ministre. Une telle personne aura contribué à la vie de son entourage, parce que la nature de la force de vie est amour et service inconditionnel, travail et harmonie, donnant tout ce qui est nécessaire pour combler les besoins d'autrui. Si vous dépensez chaque jour votre force de vie à offrir une tasse de thé à un malade, faites donc en sorte que cette force de vie soit dépensée sous sa forme la plus haute, avec une sollicitude empressée et un sourire chaleureux au patient, en lui tendant le thé avec bienveillance, bonne volonté et le désir de le voir guérir. Ainsi, un porteur de thé peut devenir un facteur rayonnant de guérison et d'élévation. Plus le porteur de thé fera silencieusement appel à un afflux de conscience divine dans sa propre conscience, plus grande et plus pénétrante sera la force de vie qu'il transmettra au patient. Le malade peut ne pas être conscient de ce qui se passe, mais une salle pleine de malades est servie par un tel porteur de thé, ou travailleur social, se remettra plus vite que des malades qui l'on donne leur thé sans un regard de reconnaissance, sans un mot, sans une pensée bienveillante. Non, tout travail, tout moment peut être sacré et beau, rayonnant de l'influx de force de vie de la conscience divine, qui élève et guérit la personne elle-même ainsi que d'autres, si elle prend le temps de comprendre qu'elle est un canal de la conscience divine, qui est guérison, protection, assouvissement de tous les besoins d'une personne. Christ revient-il dit sa vérité 9 lettre 4 Une personne possédant une telle compréhension, même si elle nettoie les planchers, et vide les bassins des malades, peut, en entrant dans une chambre, devenir le plus important, et peut-être le seul, distributeur de biens parmi six personnes s'occupant de bassins. Une telle personne peut laisser derrière elle un legs de force accru en chaque patient. Toute personne qui se rend compte que ses yeux rayonnent une force de vie puissante vers ceux à qui elle destine son regard sait que son regard, ce regard pénétrant, ce regard appuyé et souriant, est bénéfique pour celui qui le reçoit. Car tout ce que nous, oui, vous et moi, le Christ, pensons et faisons est un acte de conscience, et la conscience est force de vie. Grâce à l'activité de notre esprit, la vôtre et la mienne, nous donnons à notre conscience, à notre force de vie des formes différentes, qui béniront ou maudiront l'environnement. La seule différence entre vous, Nuema et moi-même, qui suis connu sur terre sous le nom de Jésus, c'est le type de pensée et de sentiment que Muema et moi rayonnons vers les autres. Tous deux, nous rayonnons l'énergie de conscience qui donne vie au monde. Que rayonnez-vous dans votre monde? Rappelez-vous encore une fois comment, dans des moments de grande détresse, à l'époque où j'étais en Palestine, j'ai maudit le figuier, et comment il s'est flétri jusqu'à la racine. Peu après, je fus moi aussi rondement maudit par les soldats romains et les prêtres juifs. Moi aussi, j'ai été flétri jusqu'à mes racines avant de mourir sur la croix. Prenez garde à ce que vous remettez à d'autres, assurez-vous que vous aimeriez recevoir la même chose. Un verre d'eau, tendu à quelqu'un avec amour, peut bénir et élever cette personne ou, s'il est donné avec de mauvais sentiments, peut faire que le destinataire se sent petit et sans importance, un peu plus faible et plus déprimé. Quel rôle jouez-vous dans votre environnement? Êtes-vous honoré et reconnu pour l'amour et la bonne volonté que vous manifestez au moment où vous arrivez à votre lieu de travail? Avez-vous saisi ce qui est vraiment important dans la vie? Vous êtes-vous fixé un plan spirituel, un but spirituel à atteindre avant de passer dans la belle dimension suivante? Serez-vous suffisamment purifié et engagé dans l'amour inconditionnel pour accéder au niveau supérieur de conscience spirituelle, ou vos buts seront-ils toujours ceux de votre plan terrestre? Posez-vous la question, quel rôle voulez-vous vraiment jouer dans votre environnement? Quelle est votre destination spirituelle? Tout aussi important, quelles sont vos attitudes envers d'autres personnes, la supériorité et l'exclusivité, ou la conscience que la plupart des gens font du mieux qu'ils peuvent avec les talents qu'ils possèdent? Pour atteindre votre plein potentiel, il faut vous rendre compte que ni la position ni la richesse ne peuvent limiter la puissance que vous exercez dans le monde. Vos seules limitations sont vos attitudes et les pensées résultant de vos attitudes. La force de vie émise par l'esprit d'un roi, d'un premier ministre, d'un général, ou d'un serviteur modeste, ou d'un soldat, est également puissante et produit autant de bien sur l'environnement, à condition que chacun discipline ses pensées pour se mettre au diapason des fréquences spirituelles d'amour inconditionnel et de la conscience divine. En outre, de telles pensées. Christ revient-il dit sa vérité 10 lettre 4. Pénètre et augmente la force de la conscience mondiale elle-même. Chaque personne ajoutant sa pensée spirituelle à la pensée spirituelle mondiale la renforce. Le seul facteur qui détermine le degré auquel nous est impartie notre propension au bien-être ou à la maladie est le niveau de réalisation et de compréhension spirituelle qu'on a tiré de la source de l'être. C'est pourquoi l'homme qui élimine joyeusement et de bon cœur les déchets de son voisinage, avec une bénédiction pour tout ce qu'il rencontre, est une vive lumière qui brille dans son petit monde, tandis que l'homme riche et fortuné, mais avare et grincheux, sortant de son hôtel particulier pour se rendre à son bureau, est un puits d'obscurité qui peut être ressenti négativement par ceux qui se risquent à l'approcher. Quoi que vous fassiez ou possédiez, quelle que soit la position que vous occupez dans la vie, il n'y a aucune limite à votre développement potentiel pour le bien. Il n'y a aucune limite à la splendeur et à la gloire potentielle de votre être. Votre seule limitation est le temps et l'énergie que vous êtes prêt à consacrer à la méditation sur votre source de l'être, et l'ouverture de votre conscience humaine, qui vous permettra d'y pénétrer, et de la recevoir dans votre esprit. C'est pourquoi, dirigeants religieux, révérez vos fidèles, parce que vous ne savez pas quelle compréhension, et quel progrès spirituel, ont lieu dans l'esprit de ceux qui peuvent paraître très humbles, et n'avoir aucun poids dans la société. Dirigeants religieux, cessez de critiquer les autres religions, parce que vous ne connaissez pas le degré de connaissance spirituelle, de discernement et d'illumination, que leurs fidèles peuvent avoir atteint. Dirigeants religieux, prenez conscience que vous, vous-même, vous n'êtes spirituellement avancé, que dans la mesure où laisse votre perception personnelle de la réalité. Si vous n'avez aucune perception de ce qui est derrière le voile de votre monde matériel, vous pouvez être religieux, mais vous n'avez pas de conscience spirituelle. Voilà le véritable idéal, la vraie aspiration, le but le plus élevé, comprendre et vivre la réalité qui se trouve derrière et en toute chose, et qui leur confère leur être individuel. Vous pouvez appeler la réalité, Dieu, Allah, Jéhovah, l'intelligence infinie, l'esprit divin, la conscience divine ou le Tao. Tous ces noms signifient la source de votre être, vos origines créatrices. Vous ne pouvez avoir d'aspiration plus haute que cela, comprendre et vivre la réalité derrière et en toute chose, qui donne, maintient et soutient toute existence individuelle. Voilà le but qui vous a été présenté par tout maître illuminé qui est venu sur Terre. De tels maîtres ont tous partagé la même vision, la même prise de conscience et la même compréhension. Ils ont été tenus en haute estime, mais peu de leurs disciples ont compris ce qui leur avait été enseigné. Chaque homme a interprété à sa façon les paroles des enseignants. L'interprétation de chaque homme découle de son conditionnement et de ses préjugés personnels. Dans votre vie personnelle, pensez à toutes les fois où vos pensées, mots, actes, ont non seulement une portée sur votre vie future, mais affectent aussi les gens avec lesquels vous interagissez à tout moment. Christ revient-il dit sa vérité 11 lettres 4 employeurs ou employés, quelle est votre contribution personnelle à la bonne marche de l'entreprise dans laquelle vous gagnez votre pain quotidien, que ce soit une usine, une ferme, un magasin ou un bureau? Que donnez-vous à vos salariés ou collègues en termes de bien-être et pour qu'ils se sentent bien? Que faites-vous pour l'immeuble tout entier? Pour l'immeuble, demanderez-vous avec stupéfaction? Mais je répète, que faites-vous pour votre immeuble, vos véhicules, votre entreprise tout entière? Tout, les briques, le mortier, l'acier, le verre, le papier, le métal, les pneus, les moteurs et l'essence. Tout est pénétré de la conscience que vous exsudez, pendant que vous réglez vos affaires quotidiennes. C'est la raison pour laquelle certaines personnes laissent derrière elles une traînée de destruction, parce qu'elles ont une conscience de mauvaise humeur, irritable, critique, destructive et d'autres gardent leurs biens intacts, et qui ont l'air neufs pendant des années, parce qu'ils les apprécient et les chérissent quotidiennement. Tout, sur votre terre, et de l'énergie de conscience rendue visible, que ce soit sous forme de matière inanimée solide ou de plasma vivant. Avec vos pensées, vous alimentez ou détruisez tout ce qui se trouve dans votre environnement. Que faites-vous à votre famille, à votre foyer et votre environnement? Bougonnez-vous, dénigrez-vous, avez-vous des pensées destructives envers votre travail et d'autres personnes? Alors soyez-en sûr. Vous laissez une petite traînée de conscience destructive derrière vous, qui contribuera à miner tout ce qu'elle pénètre et imprègne. Si vous vous concentrez sur le désir d'aimer, d'accepter, de travailler avec un cœur joyeux, alors, partout où vous allez, vous émettez une conscience de force, de bénédiction et de croissance. Quand j'étais sur terre en Palestine, je traitais avec les Juifs orthodoxes, qui croyaient et maintenaient des codes de conduite si rigides, qu'ils avoisinaient la cruauté, leurs lois traditionnelles étaient inhibitrices, déprimantes, limitantes et ridicules. J'ai apporté à ce peuple une nouvelle vision d'un Père éternel, qui était à la fois supérieur à eux, et pourtant partout présent, et toujours conscient de leurs besoins, et d'un tel amour universel, qu'il pouvait être certain que c'était toujours la volonté du Père d'assouvir ses besoins. Je disais aux gens de regarder autour d'eux, de regarder la campagne, les collines où les moutons et les chèvres paissaient en paix, les lacs remplis de poissons et les oiseaux qui volaient dans les airs, et se reposaient et construisaient leur nid dans des arbres, et les fleurs, si magnifiquement habillées de tant de couleurs. Je leur disais, regardez, comprenez ce que vous voyez. Vous voyez un monde où toute chose a ses besoins et voit ses besoins assouvis. Comment pouvez-vous douter quand vous voyez le mouton vivre d'herbe uniquement? Que contient l'herbe pour qu'elle alimente la toison, les os, le sang et la chair et produise des petits? N'êtes-vous pas témoin d'une merveille de provende? Regardez les besoins des oiseaux, et combien merveilleusement ils sont satisfaits. Ils ont des abris dans des arbres, et des graines pour acquérir de la force. Quant aux gens qui ont besoin de logement, de nourriture et de vêtements, le Père leur donne le monde entier pour satisfaire leurs besoins. Nyuma, après son illumination, aperçut le même esprit universel inhérent, à la fois existant et agissant en toutes choses. Nous, Nyuma et moi avons parlé à nos compatriotes de la même vérité inspirée, et leur avons posé le même genre de questions, un tel Père, Allah, ou Christ revient-il dit sa vérité 12 lettres 4 conscience divine, omniscient n'est-il pas également conscient de vos besoins les plus profonds, votre besoin d'amour, de santé et de prospérité? Comment pouvez-vous en douter? Ayez seulement la foi et vos besoins seront satisfaits selon votre foi. C'est votre manque de foi qui retire l'énergie du flux naturel de l'amour Père, Allah, dans votre corps, vos relations et votre vie. Si souvent, lorsque j'étais sur terre dans le corps de Jésus, je m'exclamais avec désespoir, j'aimerais tant vous dire, vous montrer, vous faire voir comment il se fait, que le Père connaît vos besoins. J'aimerais tant vous montrer comment vous, vous-même, contribuez à créer vos lendemains et les lendemains de ceux qui vous entourent. Si seulement je pouvais vous aider à voir, que vous récoltez vraiment ce que vous semez. Si seulement vous pouviez voir la vérité de l'existence, comme je l'ai vu dans le désert, en Palestine. Vous souriez alors que vos pensées et vos actes croissants taillés en force, jour après jour, et prennent forme extérieurement, exactement comme les semences de plantes, s'ancrent dans la terre et croissent, prenant une forme extérieure de plus en plus importante sous forme de branches, de feuilles et de fruits, jour après jour. J'aimerais tant vous montrer combien vous êtes important, à chaque seconde du jour, dans la création de votre foyer, dans votre travail et dans votre pays. Je souhaite tellement vous aider à voir comment vos pensées sont à l'origine de tout ce qui vous arrive de bien comme de mal. Elles sont la base même du bien et du mal qui vous arrive. S'il devait vous arriver malheur, ne regardez pas votre voisin pour voir d'où il est venu, regardez en votre cœur. Et voyez quand vous avez eu pour la dernière fois, un différend destructeur avec quelqu'un, par la calomnie, le mensonge, le rejet ou la critique. C'est à ce moment qu'est né votre malheur actuel. On vous a dit que vous deviez vous battre œil pour œil, dent pour dent, mais je vous dis que c'est de la folie. Si l'on vous a blessé un œil et qu'en retour, vous prenez l'œil de votre adversaire, vous vous retrouverez probablement bientôt, avec une main ou une jambe en moins. Il vaut mieux rester immobile, élever votre esprit et votre cœur vers le Père, Allah, la conscience divine, et prier en demandant aide et guérison, ainsi que protection contre de plus grandes calamités encore. Et priez aussi pour votre adversaire, car toute mauvaise pensée que vous avez à son égard ne vous attirera que plus de douleur et de détresse. Pardonnez-lui, priez pour lui, et vous ferez naître des bénédictions pour vous. Non parce que vous avez fait plaisir au Père, Allah, et fait ce qu'il fallait, mais parce que votre conscience attirera des bénédictions dans votre vie. En priant pour d'autres, vous vous bénirez vraiment vous-même. Mais que ce ne soit pas là la raison pour laquelle vous le faites, car la bénédiction serait alors teintée d'intérêt personnel. En toute situation, toujours, lorsque vous êtes menacé, arrêtez-vous, adressez-vous au Père, la conscience divine, Demandez de l'aide et voyez se produire la délivrance. Elle viendra sûrement. Je vous dis sans crainte de me voir contredire, que si n'importe lequel d'entre vous vit sous la protection du Père, elle a, la conscience divine, en rayonnant de bonne volonté, et d'amour pour tous ceux qui partagent sa vie et pour son pays, et même ses soi-disant ennemis, il ne sera jamais attaqué, ne connaîtra jamais la tristesse, ne sera jamais sujet à aucune des maladies, à aucun des revers de fortune que crée la conscience humaine. Vous serez enveloppé d'amour et de lumière, la conscience divine se déversera dans votre esprit, dans votre corps et dans votre vie. Les gens peuvent tomber malades autour de vous, ployés sous les. Christ revient-il dit sa vérité 13 lettre 4 attaque, ou se noyer dans les affres de la peur, vous continuerez votre chemin, conscient que personne n'a le moindre pouvoir humain contre la puissance, la source de votre être, qui vous a donné votre être et la vie sur terre. Personne n'osera nier cette déclaration, puisque celui qui voudrait le nier, n'a pas atteint le niveau de conscience spirituelle où une telle protection est une chose normale. Comment donc pourrait-il nier cette déclaration? Et je dis la même vérité à ceux qui ont atteint le niveau de conscience spirituelle, qui perçoit l'universalité du Père, elle a, la conscience divine et son amour débordant, rayonnant vers tout un chacun. De tels adeptes spirituels, s'efforcent de vivre cet amour et de le rayonner, et ils confirmeront avec joie, que c'est une vérité que j'ai déclarée. Ils auront éprouvé la protection miraculeuse, et la satisfaction de leurs besoins, et ils sauront qu'ils peuvent se détendre au soleil de la bienveillance et de l'amour Père, Allah, de la conscience divine. Ils seront aussi heureux d'accepter que cette conscience divine, appelée par tout autre nom, Dieu, Yahvé, l'Absolu, l'Infini, Allah, reste toujours la conscience divine universelle et pénétrant toutes choses, malgré les diverses appellations utilisées par les différentes nations. Ils auront atteint ce niveau de réalisation spirituelle, lorsqu'ils pourront percevoir que derrière toute couleur, tout langage, toute croyance, tout acte de toute nature, tous les peuples, et la création elle-même, sont à la racine de leur être. L'homme et la fourmi partagent les mêmes origines dans l'équilibre de la conscience universelle. Voilà la véritable liberté. La seule liberté. Tant que vous n'êtes pas prêt à réaliser et à accepter que votre source de l'être, à l'intérieur de vous, au-dessus mais autour de vous, peut effectivement affluer dans votre esprit, et votre corps en réponse directe à votre prière, vous serez sujet à tous les maux de la conscience terrestre et humaine. Si vous volez, vous serez également volé. Si vous vous battez, blessé, estropié et tué, vous serez estropié, blessé et tué, en votre corps et ou en votre esprit. Si vous commencez la guerre, ce sera une lutte longue et amère. Tout mal que vous endurez, vous en aurez été la cause originelle. La capacité de choisir la manière dont vous souhaitez vivre à l'avenir vous appartient. Vous choisissez votre manière de vivre en transformant votre conscience d'antagonisme en conscience d'amour et d'acceptation de chacun également. Si vous pensez au dommage ou à la blessure que vous aimeriez infliger à autrui, votre pensée atteindra votre ennemi, et sapera sa force conformément à l'intensité de votre intention. Ne pensez pas que votre pensée s'est dissoute et n'est plus. Elle demeure sous la forme d'une force électromagnétique, prenant forme avant de revenir vous blesser, vous aussi. Vous pouvez créer beaucoup de tort avec vos pensées et vos sentiments. Des torts à autrui et à vous-même. Gardez-les donc bien, ces outils de votre créativité, et tournez-vous en tout temps vers le Père, Allah, la conscience divine, et demandez à être soulagé de toute pensée contraire au véritable amour inconditionnel. Selon la puissance de votre prière, et la foi sincère avec laquelle vous élevez votre esprit vers la conscience divine, vos pensées seront imprégnées d'une nouvelle vie et d'amour. Christ revient-il dit sa vérité 14 lettre 4 ce que nous, la fraternité des éclairés, les illuminés, dans la conscience christique, sommes sur le point de vous dire, est d'une importance vitale pour le monde en général. Nous parlons également aux chrétiens, juif, musulman, hindou, bouddhiste, à toute religion et à toute race du monde. Nous parlons à tous, car tout le monde a besoin de cet enseignement pour avoir la possibilité d'accéder à des niveaux supérieurs de conscience spirituelle. Vos relations personnelles et sexuelles entre hommes et femmes sont d'une importance bien plus grande pour votre bien-être général que vous ne pouvez même l'imaginer. Nous allons traiter de ces relations de manière détaillée dans les pages qui viennent, parce qu'il est absolument impératif, vital, pour vous, hommes et femmes, de vous éveiller à la réalité fondamentale de votre individualité et de votre identité, mâle ou femelle, ainsi qu'à la source véritable des différences sexuelles. Il faut que vous compreniez complètement les réelles origines de votre corps et de vos caractéristiques mâles et femelles. Ce ne sont pas simplement des corps créés avec des organes physiques et des modes d'expression sexuelle différents afin de créer des enfants. Ils tirent l'origine de leur masculinité ou de leur féminité de la source même de leur être, de l'équilibre de la conscience universelle. Je vous dis cela avant que vous lisiez la lettre 5, de sorte que vous étudierez cette lettre en gardant à l'esprit ce que je vous dis maintenant à propos de votre sexualité. C'est pourquoi, si la sexualité des hommes et des femmes n'est pas utilisée en conformité avec l'intention de la conscience divine exprimée dans l'acte originel de création au moment du Big Bang, il est clair que bien que la sexualité puisse produire des enfants, elle n'apportera pas aux hommes et aux femmes l'unité d'être, l'épanouissement personnel et la joie qu'elle est censée leur apporter. En fait, ce sera le contraire. L'acte sexuel apporte finalement déception et saturation, après quoi tout amour précédemment ressenti par les partenaires s'enfuit. Avec la connaissance et la compréhension, les hommes et femmes orientés spirituellement tenteront de faire tout ce qu'ils peuvent pour transcender leur état présent de conscience en ce qui concerne les relations mâles-femelles de toutes sortes, peu importe ce que ces relations peuvent être, sexuelles ou autres. Ils s'efforceront d'exprimer en leur esprit et en leur cœur les buts dans lesquels ils ont été créés sous des formes différentes. Ils comprendront l'origine de la différence de leurs impulsions innées, de leur tempérament et de leur mode d'expression, et les estimeront à leur juste valeur. Ils utiliseront leurs différences pour améliorer leur bien-être réciproque. La compétition disparaîtra. Dès lors, ils entreront encore plus facilement en harmonie avec la conscience divine. Et en entrant encore plus facilement en harmonie avec la conscience divine, ils accéderont à de plus hauts niveaux de conscience spirituelle. Votre barrière à votre ascension en conscience se situe au moment où vous approchez votre sexualité. Elle vous enracine dans votre condition humaine. Nous ne pouvons pas insister assez sur le fait que vous n'avez pas découvert la vérité de votre existence avant d'avoir complètement compris et cherché à mettre en œuvre dans votre vie quotidienne. Christ revient-il dit sa vérité 15 lettre 4, dans votre foyer et dans votre métier, votre totale compréhension de la véritable signification de l'homme et de la femme. On vous a dit de ne pas commettre l'adultère. Mais je vous le dis, lorsque vous désirez la femme ou le mari de votre prochain, vous créez des images dans votre pensée qui affecteront la pensée de la femme ou du mari de votre prochain. Lui ou elle commencera alors à penser à vous de la même manière, ou se sentira mal à l'aise en votre compagnie, car il elle ressentira votre besoin sexuel, et il elle vous évitera à l'avenir. Ce qui se trouve dans votre esprit viendra sûrement à réalisation dans le monde. Ainsi, ne vous trompez pas vous-mêmes en pensant que vous pouvez rêver et faire apparaître des images qui vous plaisent et qui ne causeront de tort à personne. C'est pourquoi votre littérature pornographique est vraiment une profanation blasphématoire de la source de votre être. C'est un fléau sexuel excitant délibérément les appétits sexuels qui distillent, par l'esprit d'homme vicieux, des souffrances et de la misère secrète sur les corps, les esprits et les émotions de jeunes femmes. Ce que vous avez perpétré et commettez actuellement contribue à amener votre civilisation à un stade où elle est actuellement sur le point de se détruire. Soyez assurés que le jour des comptes viendra pour vous qui publiez et distribuez la maladie imprimée, et il viendra pour ceux qui l'utilisent pour s'exciter. Vous, dans le monde occidental, vous avez gagné le mépris de l'Est à cause de votre folie décadente. Vous n'échapperez pas à ce que vous avez semé. Et vous, gens de l'Est, n'échapperez pas à la folie que représente votre attitude dure et insensible vis-à-vis de vos femmes qui portent et élèvent vos fils et vos précieuses filles. Certains d'entre vous, dans l'ignorance de la vérité et dans des buts et des espoirs de gains égoïstes, font de la vérité de Muhammad un objet de risée. Vous engoncez vos femmes dans de lourds vêtements, leur refusant la liberté de mouvement, et l'air frais d'Allah lorsqu'elles s'aventurent au dehors, parmi d'autres gens. À quel genre d'hommes vos croyances et votre comportement irrationnel et égocentrique font-ils appel? Seulement à des hommes qui n'ont aucune compassion bienveillante pour les femmes. Sont-ce de tels disciples que votre prophète Muhammad aurait attiré à lui quand il était sur terre? Non, sûrement pas, il ne faisait appel qu'aux plus spirituels parmi les hommes. Quelle image de votre prophète donnez-vous au reste du monde? Je vais vous le dire, celle d'un démon, obsédé par l'infériorité du sexe féminin, qui considérait la femme comme une possession de l'homme, et qu'il fallait soustraire au regard du monde. Un homme inconscient des vrais besoins d'une femme pour être heureuse, un homme oublieux de sa misère de femme captive et soumise. Cet homme n'a rien à voir avec le véritable Muhammad, le prophète d'Islam. Quand il était sur terre, il révérait et respectait le sexe féminin. C'est du sexe féminin qu'il a tiré les moyens d'avancer sur sa voie spirituelle vers l'illumination. Il devait beaucoup aux femmes et savait que bien qu'elles soient différentes de corps, elles étaient égales aux hommes en esprit. Christ revient-il dit sa vérité 16 lettres 4 en fait. Ce n'est pas par accident qu'il est venu sur terre pauvre et privé de tout, pour rencontrer une dame d'une extrême vertu, matériellement riche et spirituellement pleine de discernement, qui l'a aidé à s'élever jusqu'à la stature de prophète, lorsqu'il fut apte à l'assumer. C'était là le but de la venue de Muhammad sur terre, rétablir la femme à sa place légitime, en tant que partenaire à part égale de l'homme dominant. Considérez bien ce qui suit. Après mon illumination, moi, en la personne de Jésus, je suis devenu chaste parce que j'avais choisi de l'être, mais cela n'a nullement influencé mon amour pour les femmes qui s'occupaient de mes besoins. Même Muhammad, après son illumination, connut beaucoup de femmes et son ministère, est celui auquel on fait appel pour apprendre comment vivre avec les femmes, et les traiter avec équité et amour. Tout comme l'intérêt à inciter mes disciples à raconter mes actes et mes enseignements de manière sélective, afin de promouvoir leurs propres buts, de même, l'égoïsme de certains individus spirituellement aveugles, leur a fait déformer l'enseignement original de Muhammad par de nombreux compléments et interprétations, que Muhammad n'avait jamais voulu. C'est de cette manière que l'œuvre de tous les grands maîtres spirituels, est recouverte de désinformations provenant de la pensée humaine, jusqu'à ce que la vérité soit, si mêlée d'erreurs que les gens, sont sérieusement égarés et même incités à pécher par ignorance. Du fait que vous et certaines autres religions, avez largement adhéré à la croyance qu'Adam et Ève, ont été créés pour vivre dans le bonheur dans le jardin d'Éden, au fait qu'Ève a été tentée par le serpent, qu'elle soit tombée en disgrâce et qu'elle ait tenté Adam, l'homme a été encouragé à percevoir la femme comme la grande tentatrice. Les origines imaginées du genre humain ne sont pas vraies. Elles sont plutôt des allégories. Il n'est pas vrai non plus que la femme soit la grande tentatrice. Pour les eunuques, la femme n'a aucun attrait. Pourquoi? Parce que ce qui pousse un homme à coucher avec une femme lui est ôté. Donc, en qui est le tentateur? En l'homme lui-même, et qui peut lui être enlevé physiquement, ou dans la femme qui reste elle-même malgré tout? L'homme a été créé expressément pour planter sa semence. Donc, planter la semence il doit, chaque fois qu'il en voit l'opportunité. La femme a été créée pour recevoir la semence. Dans les années passées, avant le XXe siècle, Les femmes étaient sexuellement endormies jusqu'à ce qu'elles soient séduites par les hommes. Où est donc le tentateur? En l'homme, qui éveille et séduit, ou en la femme, séduite et éveillée? Au nom de la pureté, l'homme se cache à lui-même sa nature masculine, et rend la femme responsable de sa chute. Est-ce là une activité sacrée? Est-elle respectable? Devrait-elle se perpétuer? Nous parlons à ceux d'entre vous, qui disent adhérer à la foi musulmane, et qui croient qu'ils sont sans péché et qu'ils ont l'esprit pur, parce qu'ils enveloppent leurs femmes dans de lourds vêtements pour se protéger de la tentation, et empêcher d'autres hommes de voir leur possession. Voyez à quel point vos passions vous induisent en erreur. En tentant de vous protéger de l'exercice de vos désirs humains, vous ne faites que les exacerber jusqu'au point où ils explosent sous une forme virulente, brutale. Christ revient-il dit sa vérité 17 lettre 4 Je, nous, disons aux hommes et femmes de partout, la vraie pureté ne peut être atteinte, que lorsque vous pouvez vous entourer de toute forme de tentation, et cependant rester libre de désir, impassible devant les sentiments terrestres, indifférent aux désirs terrestres, libre de l'envie et du besoin effréné de possession. La pureté sous toutes ses formes, transcende tous les appétits physiques terrestres. La pureté est l'aptitude de voir la tentation pour ce qu'elle est, la grossièreté de la pensée, et du sentiment qui piège les sens des hommes et des femmes, et les pousse à faire des choses impures. Une personne vraiment pure ne désire que l'environnement pur et honnête, qui convient à son désir inné d'amour spirituel, et de beauté de son expression personnelle dans toutes les facettes de sa vie. Voilà ce qu'est la véritable pureté. Cependant, la vraie pureté ne peut se réaliser qu'après de longues années de tentation. C'est une partie nécessaire de votre développement spirituel, à moins que vous n'ayez été parfois douloureusement tenté, et que vous en soyez finalement venu à comprendre qu'il existe une voie plus haute, une voie d'abnégation, de sollicitude et d'affection pour une femme bonne, vous n'atteindrez jamais un état de réelle pureté. Vous serez l'esclave de vos désirs, et vous vivrez dans un conflit intérieur constant. Ainsi, n'évitez pas la tentation en recouvrant les femmes, et en vivant dans des conditions artificielles de pseudo-pureté. Plutôt, hommes et femmes, enlevez vos habits, vénérez mutuellement votre corps qui est la forme visible et magnifique de la conscience divine intérieure, et éprouvez le soulagement que cette réelle pureté vous apportera. Souffrez de cruelles tentations, et surmontez-les. Apportez votre conflit au-devant de la conscience divine, et recherchez son pouvoir pour vous aider à surmonter votre désir physique. Car ce n'est qu'ainsi que vous trouverez la liberté et la paix de l'esprit que vous recherchez fondamentalement. Si, à ce moment, vous cherchez à soulager et à libérer vos envies en leur cédant, vous ne trouverez ni soulagement ni libération. L'envie même reviendra en son temps, et à nouveau, vous connaîtrez le conflit cuisant. Si vous lui cédez à nouveau le conflit, encore plus intense, attendra votre décision de rester fermement, dans le pouvoir de la conscience divine, jusqu'à ce que le désir soit finalement soumis, lorsque vous percevrez la beauté sacrée, la réalité derrière et en toute forme physique. La plus haute spiritualité entre les sexes, survient quand l'homme et la femme peuvent se tenir ensemble, nus et en paix, dans un état de vénération de l'âme, de l'esprit, du cœur et du corps. Dans une telle spiritualité, tout ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre, est de l'amour et de la considération pour le bien-être de l'autre. C'est à partir d'un tel amour et d'une telle sollicitude, tendre et pleine de compassion, que vient une union extatique que bien peu de gens ont vécue, et que, si l'intention y est, un enfant d'une incomparable beauté de corps et d'esprit sera conçu. Dans les siècles à venir, lorsque les gens auront commencé à évoluer spirituellement à chaque niveau de leur condition humaine, un tel amour entre les partenaires sera considéré comme normal, et la sexualité égoïste, ne recherchant que la satisfaction physique, comme c'est le cas actuellement, sera considérée comme complètement dégradante, aussi odieuse que le viol. Christ revient-il dit sa vérité 18 lettre 4 à l'heure actuelle. La voie la plus hautement spirituelle à suivre en ce qui concerne la sexualité, est de reconnaître et d'accepter, par la perception, que les hommes et les femmes ont été créés pour accomplir dans la vie certaines tâches convenant à leur nature fondamentale. L'homme féconde la femme. Sans la bonne volonté et l'aide de la femme, l'homme arriverait à la fin de ses jours, sans enfant, sans être humain perpétuant son nom. C'est pourquoi l'homme devrait traiter la femme comme son égale, mais qui est née pour assumer des responsabilités différentes. Il devrait, en tout temps, lui accorder le plus grand respect, ainsi que de l'amour et de la sollicitude, pour lui permettre de porter ses fardeaux plus facilement, car c'est elle qui donne une forme visible à ce qui est d'abord conçu dans l'esprit. Lorsqu'une femme reçoit le spermatozoïde qui s'unit à son ovule dans les entrailles de son corps, un miracle se crée auquel vous, l'homme, n'avez rien fait pour contribuer, sinon avec votre sperme dans un moment de délice, en quoi se trouve votre récompense? Vous ne pouvez contribuer qu'au maintien de la santé, et au développement normal du miracle à qui vous avez donné vie dans le corps de votre partenaire, et, grâce à votre amour infaillible, plein de sollicitude pour son bien-être et sa santé, et en la protégeant de tout mal physique ou émotionnel. Voilà ce qu'est votre responsabilité masculine. Ce n'est qu'ainsi que vous méritez de rester à son côté en tant que père de son enfant. Si vous n'y arrivez pas, vous n'avez aucune valeur en tant que père pour l'enfant, et aucune valeur à vos yeux en tant qu'homme né pour manifester votre conscience divine père spirituel au cours de votre vie physique. Un homme qui harcèle une femme portant son bébé, qui la traite avec mépris, qui s'adresse à elle en termes, ou avec des gestes grossiers et brutaux, viole la loi la plus fondamentale de la loi de l'existence selon laquelle mâle et femelle devraient être unis dans l'égalité de l'état divin. Les femmes qui sont aimées, respectées et protégées devraient également respecter, aimer et offrir le rafraîchissement d'esprit et de corps à leur partenaire, nourrissant sa capacité de donner de lui-même à sa compagne. Une femme qui ne nourrit pas son partenaire avec sollicitude, tendresse et amour prive son esprit masculin de la volonté de persévérer face aux difficultés qu'il rencontre dans le monde extérieur. Il ira chercher consolation à une autre source, homme ou femme, boisson ou drogue, ou en s'isolant dans son foyer, ce qui ne sera utile ni à sa partenaire ni à ses enfants. C'est pourquoi les hommes et les femmes ont la même responsabilité de se chérir mutuellement. Tout comme l'homme doit apprendre à canaliser, quotidiennement, l'aspect père de la conscience divine envers sa famille et son travail, de même, la femme doit apprendre à exprimer l'aspect mère de la conscience divine dans sa vie quotidienne. Ceux qui nient cette vérité se verront dénier leur accès au royaume céleste, tant qu'ils n'auront pas augmenté leur sensibilité spirituelle, et changé leur attitude par la prière. Ce n'est que lorsque leur vision s'élèvera au-dessus de la perception humaine terrestre du mâle et de la femelle et au-delà de leur désir terrestre et de leur égoïsme, vers la réalité dont ils ont tiré. Christ revient-il dit sa vérité 19 lettre 4 leur être, qu'ils échapperont au cycle des réincarnations, et qu'ils pourront accéder à la joie et la gloire ultime. Si, dans une culture, une femme n'est considérée que comme une possession, l'objet du désir de l'homme, et non traitée comme une femme, absolument l'égale de l'homme, une telle culture n'a pas compris la vraie nature de l'homme, et la vraie nature de la femme. L'homme et la femme sont deux moitiés égales d'un tout. Seul et célibataire, l'homme ne manifeste qu'un aspect de sa source de l'être. Seul et célibataire, la femme elle aussi ne manifeste qu'un aspect de sa source de l'être. La divine intention de la conscience universelle était d'exprimer sa propre totalité dans la création, en individualisant, dans la forme physique, chacun des deux aspects d'elle-même à part égale, puis de les réunir à nouveau dans la forme physique, afin qu'ils fassent l'expérience de l'unité et de la totalité de la conscience divine, dont ils avaient tiré leur individualité. En se réunissant dans l'amour, et l'unité d'esprit et de corps, ils découvrent la joie et l'extase de la conscience universelle en équilibre. Ce processus est clairement défini dans les lettres 5 et 7. C'est pourquoi la combinaison de la masculinité de l'homme et de la féminité de la femme est essentielle pour créer une totalité tirée de la source de l'être. C'est de cette combinaison qu'est formé un enfant complet. Lorsque j'étais dans le désert, en Palestine, j'ai d'abord perçu que la nature primordiale de la créativité de la conscience universelle, notre source de l'être, était l'intention. L'intention de créer, de planifier et de concevoir, puis de produire ce concept en le faisant croître, en le nourrissant, en le guérissant, en le protégeant et en satisfaisant ses moindres désirs d'une manière disciplinée. Mâle et femelle évoluent tous deux, dans leur forme physique et en conscience pour faire l'expérience de l'intention, et l'exprimer de toutes les manières possibles dans leur vie. Voilà l'action primordiale de la créativité. Sans intention, il n'y aurait aucune création. L'intention est l'origine de toute existence, et elle la pénètre. L'intention définit la nature de l'acte, aimant ou destructeur. Le mâle et la femelle ont été individualisés, afin de faire l'expérience et de formuler l'intention dans leur vie. C'est l'impulsion première de la créativité. Le mâle et la femelle ont aussi été individualisés pour expérimenter et exprimer la force de volonté. La force de volonté chez le mâle se vit et s'exprime principalement dans l'activité. Dans ses formes primitives, il sort dans son environnement afin d'accomplir son intention. Il revêt donc son habit. Christ revient, il dit sa vérité 20 lettre 4 de chef et de chercheur. Il a été individualisé pour penser et travailler à réaliser ses buts sans l'encombrement d'émotions. La force de volonté, chez la femelle, est motivée et vécue principalement sous la forme de sentiments, du besoin de nourrir l'intention originelle, et de l'apporter résolument à terme, à maturité, en entretenant, nourrissant, habillant, réparant, enseignant, protégeant. Le but est totalement différent de l'intention, puisque le but descend du plan mental de l'intention, et devient un instinct émotionnel, un désir de formuler des moyens permettant d'arriver à la fin voulue. L'intention puissante de faire quelque chose devient une raison de vivre, qui sous-tend toute l'existence. C'est ainsi que la pensée et le sentiment se marient afin de réaliser l'œuvre de création. Le mâle est constamment à la recherche de nouvelles idées, de nouvelles manières d'accomplir ses intentions, afin de se donner une raison de vivre. Les intentions de la femelle sont le but personnifié, sensible et constante, elle est prête à faire des sacrifices pour ce qu'elle aime. Par conséquent, les deux impulsions fondamentales, qui résident dans la source de l'être, exprimée dans la forme physique en tant que mâle et femelle, sont interdépendantes. L'une ne pourrait pas survivre sans l'autre. Tous deux sont nécessaires à la continuité de la création. Du fait de sa mobilité masculine, de son instinct de chef, le mâle se considère supérieur à la femelle. C'est parce que cette dernière est constante, et qu'elle est créatrice de sécurité pour le mâle. Mais l'instinct féminin est un instinct d'amour inconditionnel, un instinct qui mérite le plus grand respect, et la plus grande considération, afin de pouvoir fleurir et accomplir son but inné à l'intérieur d'un foyer, dans la paix de l'esprit et dans la joie. Le rôle de l'homme est de fournir la sécurité physique, et les moyens matériels de subsistance de la famille. Le rôle de la femme est de fournir la sécurité émotionnelle, et les moyens émotionnels d'accomplissement personnel, et de joie au sein de l'environnement familial. Dans le passé, aussi bien à l'est qu'à l'ouest, le mâle a joué son rôle de dominance au sein du foyer, rendant la femme soumise et obéissante à sa volonté. Ce faisant, il a dévié et déformé les énergies de la conscience divine et les a canalisées, à travers son esprit et son cœur, dans une civilisation déviante. Il a également déformé la conscience de la femme en lui inspirant un puissant ressentiment à l'égard de son rôle de soumission, qu'elle sait intuitivement ne pas être censée supporter. C'est pourquoi il a créé un mode de vie dégradé, et dégradant pour lui-même et pour sa partenaire, et qui est en conflit total avec la nature de sa source de l'être. Le fait que la femelle ait dû exercer son instinct masculin d'agressivité pour exprimer son égalité d'être, afin de gagner le respect qui lui est dû dans la société, signifie que votre civilisation est devenue complètement instable et malsaine. La femme, de désespoir, usurpe le rôle du mâle, mais en agissant ainsi, elle trahit l'intention de la création. Christ revient-il dit sa vérité 21 lettre 4 mâles et femelles, ont complètement perdu leur chemin. Dans les pays sous-développés, les gens ne sont qu'à moitié vivants, et essaient de trouver une solution à la séparation entre mâles et femelles au moyen d'une sexualité libre. Avec pour résultat que les hommes et les femmes, se posent encore plus et s'épanouissent encore moins. Les conflits familiaux créent des tensions, de la misère et des séparations, même si les époux vivent sous le même poids. Dans les pays développés, les cabinets de psychiatres se remplissent de gens et d'enfants malheureux, qui disent ne pas savoir qui ils sont en réalité, ni quel est leur but dans la vie. Ils posent ces questions à des experts qui ne connaissent pas davantage la réponse. Il y aurait lieu de rappeler aussi que toute personne, mâle ou femelle, a des leçons à apprendre dans la vie qui ne peuvent être apprises qu'à travers le sexe et la race dans lesquelles elle vit. C'est pourquoi il faut que la femme accepte son rôle en donnant sécurité et amour émotionnel à son compagnon et à ses enfants, dans la dignité et le respect d'elle-même, et qu'elle le fasse au mieux de ses capacités. Il faut qu'elle reconnaisse que le rôle de pourvoyeuse de sécurité émotionnelle est absolument vital pour la société. Elle fournit l'alcool de l'amour et du bien-être qui unit les familles, les villes et les pays. Lorsqu'elle a compris sa vraie place et ses véritables objectifs dans la société, et qu'elle cherche à œuvrer dans ce sens, et à les réaliser de la meilleure façon possible, elle avance rapidement sur le sentier qui mène à l'amour inconditionnel, et aux plus hautes récompenses en épanouissement personnel et en bonheur. Elle accédera peut-être aussi à un niveau supérieur de conscience dans sa prochaine vie, en tant que mâle qui apportera de grands bienfaits à l'humanité. De même, les mâles spirituellement évolués, peut-être même des maîtres spirituels, reviennent sur terre pour apprendre la vraie humilité, et mettre en pratique quotidienne, leurs principes de vie élevés dans l'enveloppe d'une femme qui joue son rôle de mère avec sagesse, et prend soin de tous qui ont besoin de ce qu'elle peut offrir. Où donc est l'inégalité? Ôtez les écailles de votre vue et de votre intellect limité, et voyez avec une claire vision, qu'il ne devrait y avoir aucune inégalité, rien que des intentions partagées pour exprimer tout ce que vous avez tous deux tiré de la conscience divine de la manière la plus spirituelle pour atteindre le bonheur le plus grand possible sur Terre. Dans les années à venir, lorsque l'homme et la femme auront évolué spirituellement, si ou quand ils seront divisés en intentions, ils apporteront ensemble leurs intentions à la conscience divine pour me demandant, que faut-il créer dans ces circonstances? Quelle est notre voie la meilleure pour avancer? Lorsqu'ils auront reçu des réponses, ils les accepteront d'un cœur aimant et les mettront en commun. Toute différence dans les réponses sera respectée et remise à la conscience divine avec la même requête, jusqu'à ce qu'ils en arrivent à un sincère consensus. Ensemble, l'homme et la femme retourneront demander à la conscience divine, comment pouvons-nous atteindre au mieux notre but? Et cette fois encore, ils partageront leurs réponses et continueront à demander jusqu'à ce qu'ils arrivent finalement à un plan de travail, qui aura été conçu non dans le cerveau humain uniquement, mais dans la plus haute dimension de créativité, la conscience divine. Christ revient-il dit sa vérité 22 lettre 4 en travaillant ensemble de cette manière, ils finiront par expérimenter la félicité de la vraie unité d'âme, d'esprit, de cœur et de corps. Finalement, le mâle ne pourrait vivre confortablement, sans expérimenter et manifester aussi un peu de l'instinct féminin. Il a besoin d'émotions pour se relier à sa femme, à ses enfants et à d'autres relations, copains d'école, collègues, relations professionnelles, amis. Dénué de sentiments chaleureux, il serait un monstre froid. Fréquemment, s'il s'agit d'une vieille âme, il témoigne de beaucoup de chaleur humaine, et de sollicitude qui viennent d'une précédente incarnation de femme. Plus il évolue spirituellement, plus ces deux impulsions sexuelles s'égalisent et s'équilibrent dans sa nature. Cela s'applique aussi aux femmes. De même, la femme ne pourrait exister facilement sans une certaine quantité de masculinité. Si elle ne disposait pas d'une certaine capacité à planifier intelligemment, son ménage serait une zone sinistrée. Il existe aussi la possibilité qu'elle ait été un fort caractère masculin dans son incarnation passée et qu'il lui soit malaisé, dans un rôle féminin, de se sacrifier à autrui. Une telle femme devra demander à la conscience divine de clarifier sa vision, afin qu'elle puisse voir que sans amour pour l'humanité, la capacité de diriger est une entreprise périlleuse. Lorsqu'hommes et femmes se rapprochent de l'équilibre des natures mâles et femelles en eux-mêmes, leur tâche dans la vie est de transcender leur instinct sexuel en réalisant l'amour inconditionnel pour tous les êtres humains, et en dirigeant l'instinct lui-même dans la créativité pure, tels les arts. C'est de tels êtres que sont faits les maîtres, maîtres d'eux-mêmes, maîtres de la créativité, maîtres de la conscience humaine, maîtres de la matière. Malheureusement, à l'époque actuelle, vos hommes et femmes qui se rapprochent de l'équilibre entre les natures mâles et femelles dans leur propre nature, n'ont pas de repère pour savoir quel devrait être leur but. Ils ont perdu leur chemin et ont créé entre eux une société factice dans laquelle la joie et l'épanouissement personnel qu'ils recherchent sont neutralisés par leurs préoccupations corporelles, plutôt que par une réalisation spirituelle. Ils resteront malheureux, déchirés dans des conflits, tant qu'ils n'auront pas découvert la vérité en ce qui concerne qui ils sont en vérité. En parlant du rôle féminin dans la vie, il faut aussi dire que beaucoup de jeunes femmes modernes des pays développés ont atteint un pourcentage élevé d'énergie masculine ces 100 dernières années. Elles doivent soigneusement choisir leurs priorités dans la vie. Elles ne doivent pas rester à la maison, à s'ennuyer et à stagner, mais elles seront plus heureuses, plus épanouies si elles tournent leur intelligence et leurs aptitudes vers la création de nouveaux modes de vie constructifs pour toute la famille. Pour le moment, il se peut qu'elles ne sachent pas comment y parvenir, mais la méditation attirera dans leur esprit l'inspiration nécessaire quant aux meilleurs moyens d'utiliser leur autorité et leurs talents pour le bonheur de tous. Les hommes qui ont développé une plus grande capacité d'empathie vis-à-vis des femmes et de leurs compagnons masculins trouveront également, par la méditation suivie d'inspiration, de plus hauts moyens d'expression de leur capacité de diriger dans leur profession, qui apporte le bonheur à autrui. Christ revient-il dit sa vérité 23 lettre 4 Pourquoi ai-je, avons-nous, traité le sujet des sexes de manière si approfondie? Ceci est absolument nécessaire puisque la guerre des sexes, aussi bien à l'est qu'à l'ouest, crée des conditions malsaines sur Terre. Elle encourage l'agression et aggrave la colère et l'hostilité. La liberté sexuelle a conduit le monde à un point de crise, qui le mène à l'extinction par le développement du sida. Tous les virus sont créés par des forces de conscience destructives. Il faut que vous compreniez que les êtres humains ont créé leur propre virus. Chaque virus est une impulsion vivante de conscience destructrice rendue visible. Elle prend pour cible la cible que visait l'impulsion de conscience destructrice au moment où le virus a pris forme. J'ai été très clair sur cet aspect de l'existence, lorsque j'étais sur terre dans le corps de Jésus. Les Juifs avaient une tradition très rigide, qui était de laver les coupes avant d'y boire. Je leur avais dit explicitement qu'ils ne devaient pas se soucier de ce qui entrait dans leur bouche, mais bien plutôt de ce qui sortait de leur esprit et de leur cœur, et par suite, de leur bouche. À ce moment-là, la science n'avait pas encore découvert la présence de virus, mais il était notoire que la maladie venait du fait de boire et de manger dans des ustensiles malpropres. Mais je savais que l'origine des maladies venait surtout du cœur et de l'esprit de gens en colère. Ensuite, elle se propageait par division des cellules, mais elle portait en elle, à jamais, l'instinct et la conscience qu'il avait initialement fait naître. Le sida n'est pas un accident. Il a émergé des forces de conscience d'autogratification et de réaction émotionnelle destructrice entre partenaires sexuels. La haine et la colère exacerbées peuvent conduire les gens à accomplir un acte sexuel qui laisse des résidus de maladie derrière lui dans l'esprit, les émotions et le corps. Du fait que l'accord émotionnel ne motive pas toujours l'acte sexuel entre hommes et femmes, ceux-ci connaissent des déceptions profondes, ainsi qu'un manque de soulagement et d'épanouissement. Lorsque cela arrive, l'énergie sexuelle mâle diminue. Elle doit être ravivée par des images de perversion sexuelle. Il en résulte que la pornographie est devenue un business important dans certains pays. Elle flatte les seuls instincts corporels. C'est de la pornographie que viennent le manque de respect pour la femme, ainsi que les actes sexuels mécaniques et sans émotion, en même temps que l'augmentation rapide des viols et des abus sexuels d'enfants. Les gens qui s'adonnent à de telles abominations, à de tels actes de cruauté dépravée, en récolteront sûrement les conséquences soit dans cette vie, soit dans une incarnation future. C'est pourquoi, lorsque des fidèles musulmans condamnent l'Occident pour son laxisme dans ses comportements sexuels et ses perversions, ils ont raison de croire que ces derniers provoquent des conditions malsaines sur Terre. Ces conditions malsaines ne sont pas envoyées par Allah, mais sont une conséquence naturelle de la violation des lois de l'existence. De même, les fidèles musulmans violent les lois de l'existence parce que, comme les juifs, ils s'accrochent à la tradition de vengeance œil pour œil et croient à la guerre sainte. La guerre sainte n'existe pas, seule existe la réalité du saint pardon, et de la sainte réconciliation, qui consiste à traiter son frère, soit-il votre ami ou votre ennemi, avec amour et compréhension. Christ revient-il dit sa vérité 24 lettre 4 Aucun de vous ne peut violer les lois de l'existence, et espérer entrer dans le royaume des cieux ou au paradis. Votre comportement n'a aucune place au-delà de la pagaille que vous faites maintenant rejaillir sur vous. Nous vous quittons sur ces pensées que nous vous prions de recevoir au plus profond de votre conscience, en espérant que vous en ferez bon usage dans votre vie quotidienne. Nous vous recommandons vivement de vous réunir par petits groupes, nonobstant vos croyances religieuses, pour utiliser les lettres comme des lignes de conduite pour votre vie quotidienne. Libérez-vous, si vous le pouvez, de votre conditionnement et réunissez-vous dans la vraie humilité, en personnes qui admettent connaître peu de choses de la vraie spiritualité, mais fortement désireuses d'apprendre à enrichir et à spiritualiser leur vie. Comme vous êtes nombreux à le savoir, vous entrez dans une nouvelle phase de l'histoire mondiale, au cours de laquelle on prendra conscience que la grande ligne de démarcation ne sera plus entre les riches et les pauvres. La grande division sera celle des consciences. La division aura lieu entre ceux qui auront su trouver leur entrée dans la conscience spirituelle supérieure, et qui rayonneront l'amour et l'acceptation vers tous également, frères et ennemis, et qui feront leur but de rayonner la conscience divine dans toutes les facettes de leur vie quotidienne, et ceux qui resteront enfermés dans leurs désirs égoïstes, cherchant à dominer les faibles. Ils sembleront réussir pendant un certain temps, mais ils échoueront finalement et leur souffrance, dans l'obscurité qu'ils se seront eux-mêmes créée, sera grande. Ces lettres seront les moyens pour vous de sortir de l'obscurité pour entrer dans la lumière. En cherchant à élever vos fréquences de conscience spirituelle, en rayonnant l'amour vers tous, inconditionnellement, vous passerez par une lente ascension en conscience, qui affectera de manière dynamique votre santé physique et vos conditions de vie matérielle. C'est sur vous, les personnes courageuses, que reposera l'élévation de la conscience mondiale. Vous émergerez du conflit à venir, fort et motivé, et vous commencerez à construire un autre genre de conscience mondiale. Vous établirez le début d'un progrès spirituel, technique et économique et d'une paix mondiale pour les siècles à venir. Moi, le Christ, j'ai parlé. Nous, la fraternité des maîtres, nous parlons aux chrétiens, aux musulmans, aux bouddhistes, aux juifs, aux hindous, aux soufis et à toutes les convictions religieuses du monde. Vous êtes tous inclus dans notre amour. Croyez-le, car c'est vrai.